Bien, donc simplement pour me présenter rapidement avant de vous parler d'une recherche qu'on a menée avec deux autres collègues de l'UFM de Mâcon. Donc à l'époque où j'étais embauchée à Mâcon comme maître de conférence en sociologie, et puis maintenant je suis à l'UFM de Lyon. Donc je suis également chercheuse au GRS, qui est donc à Lyon 2, l'Université Lyon 2, le groupe de recherche sur la socialisation, et également je suis rattachée à l'INRP, donc au pôle éducation et politique. Alors, donc c'est une recherche que l'on a menée avec Patrick Dubois et Gérard Petit, et donc qui a donné lieu à deux articles, donc un dans la Revue française de pédagogie, le dernier numéro, et un autre dans la revue Éducation et Société. Alors, je ne sais pas quel numéro, le dernier, enfin bon, un numéro, un prochain numéro. Voilà. Et puis, le rapport de cette recherche est consultable aussi sur le site de l'INRP. Alors, le point de départ, en fait, de cette recherche, c'est un constat qui a été fait par de nombreuses recherches, de nombreux sondages. C'est l'insatisfaction que peuvent avoir un certain nombre de stagiaires à l'égard de leur formation, stagiaires UFM. Alors, simplement des chiffres récents, mais vous les avez tous en tête. En 2004, il y avait 76% des professeurs des écoles débutants qui se disaient insatisfaits de leur formation à l'UFM, et 85% qui trouvaient que l'UFM leur avait apporté une réflexion globale sur l'école plutôt que des outils, des méthodes directement utilisables. Bon. Donc ça, on a tous ces données en tête. Et également, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont analysé ce que les stagiaires ressentent comme des décalages entre leur formation et les représentations qu'ils ont du métier enseignant. Alors là, je pense aux recherches de Peroni, de Pernoud, Blanchard-Laville, Rayou et Van Zanten, dont tu as parlé déjà. Il y a eu déjà un certain nombre de travaux. Et ces travaux nous semblaient intéressants à l'époque parce qu'ils montraient les limites des explications internes à l'institution, c'est-à-dire les explications en termes de on pourrait faire mieux, on pourrait faire autrement en termes qualitatifs ou en termes quantitatifs, il faudrait plus ou moins de tels ou tels enseignements. Et également, c'était des recherches qui pointaient les limites des interprétations en termes d'utilitarisme des stagiaires, c'est-à-dire que on se rend compte que les stagiaires démontrent quand même des capacités de conceptualisation et on ne peut pas limiter leur grief à une interprétation en termes de ils veulent simplement des apports utiles et ils ne sont pas capables de conceptualiser. Alors, comment est-ce que nous avons procédé au niveau méthodologie? C'est une recherche qui a eu lieu en 2001 et nous nous sommes centrés sur un seul centre IUFM parce que c'était une approche qualitative et il était très important pour nous de connaître le contexte dans lequel les stagiaires émettaient leur point de vue sur leur formation. Et donc nous nous sommes centrés sur l'UFM de Mâcon, hein, où nous étions en poste nous-mêmes. Donc avec des entretiens passés en fin d'année et une série de questionnaires en début d'année, une série de questionnaires en fin d'année. Alors on a interrogé en fait les PE2, donc les professeurs des écoles en deuxième année à l'UFM, et également les PCL2, donc enseignants du secondaire stagiaires en EPS. Mais je ne vais pas vous parler de la deuxième catégorie d'enquêter parce que vous savez qu'ils ont une formation quand même assez spécifique. Et puis bon, je vais me centrer là dans mon intervention sur l'analyse des propos des professeurs des écoles. Alors, au niveau de la problématique des références théoriques que nous avons utilisées, bon, la problématique, nous avions un double objectif, hein. D'une part, premier objectif, définir dans quelle mesure les représentations des stagiaires sont proches ou éloignées du modèle enseignant visé officiellement par les IUFM. Donc ça, c'était notre premier objectif. Et deuxième objectif, c'était de rendre compte de la diversité de ces représentations d'un stagiaire à l'autre, mais également à l'intérieur même d'un stagiaire tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait une variabilité des représentations dans l'avancement de l'année en IUFM, puisqu'on a pu vérifier ça avec les questionnaires qu'on avait en début d'année et les questionnaires en fin d'année. Alors, par rapport au modèle enseignant visé officiellement par les UFM, bon, vous savez tous qu'il y a eu à la mise en place des UFM, donc en 90, il y a eu une explicitation de l'exercice du métier enseignant qu'on a défini comme une mobilisation professionnelle de diverses compétences, à la fois des savoirs théoriques, des savoirs académiques, pédagogiques, didactiques, etc. Mais aussi, on a souligné l'importance de compétences pratiques, hein, et la capacité à réaliser, par exemple, des bricolages, hein, sur le terrain. Et également, on a souligné la capacité à analyser de façon réflexive sa pratique professionnelle. Et nous avons voulu vérifier dans quelle mesure les stagiaires s'appropriaient ou non ces thématiques professionnelles du métier et les valeurs qui sont rattachées à ces thématiques professionnelles du métier. Et puis, nous avons fait l'hypothèse que ces représentations dépendent donc du contexte général de la formation, c'est-à-dire la politique générale qui a été impulsée au niveau des UFM, et également du contexte singulier dans lequel cette politique prend forme. Hein, c'est-à-dire que la manière dont, à l'UFM de Mâcon, on a retranscrit ces injonctions politiques au niveau national. Et on s'est dit également que ces représentations variaient en fonction de la manière dont les stagiaires se réapproprient les situations professionnelles et de formation en fonction de leurs héritages propres. C'est-à-dire que, bien sûr, les stagiaires ont eu un vécu antérieur à l'IUFM et ça a été une des dimensions de notre questionnement, de voir comment chacun s'était réapproprié la formation à l'IUFM et les injonctions professionnelles liées à l'IUFM. Alors, au niveau des références théoriques que nous avons mobilisées, bon, je ne cite pas toutes les références qui nous ont intéressées, mais globalement, il y a eu toute la littérature autour de la socialisation professionnelle. Et notamment, il y a un auteur qui nous a intéressés, c'est Everett Hughes, qui a fait paraître un article en 1955 sur la fabrication du médecin et qui propose un schéma de la socialisation professionnelle qui montre que, en fait, cette socialisation professionnelle dépasse largement la possession de compétences scientifiques ou techniques et qu'elle est non seulement un apprentissage, mais aussi une initiation. Et c'est ce terme qui nous a intéressés. Initiation, bon, au sens ethnologique, une initiation à une culture professionnelle et une conversion au sens religieux de l'individu à une nouvelle conception du monde et à une nouvelle conception de soi. Et il insiste dans cet article sur l'adoption d'une nouvelle identité. Et il distingue trois mécanismes à cette socialisation professionnelle. D'une part, le passage à travers le miroir, c'est-à-dire que lorsqu'on entre dans une profession, on est amené à voir le monde à l'envers. Et pour les stagiaires et UFM, ça nous a semblé intéressant de souligner que finalement, on va voir l'école, on va voir les élèves, on va voir le travail scolaire avec des yeux d'enseignant et non plus des yeux d'élèves. Et on verra par la suite que les stagiaires y arrivent plus ou moins bien. Et donc, ça suppose une conversion identitaire. Et puis, c'est une phase critique, hein, ce moment de passage à travers le miroir, car, d'une certaine manière, le sujet est contraint de renoncer à certaines identités antérieures, et alors que les nouvelles identités ne sont pas encore pleinement installées. Et puis, Autre mécanisme de cette socialisation professionnelle, c'est la dualité problématique qui caractérise ce que peut vivre un nouvel entrant dans une profession entre le modèle idéal qu'il avait de cette profession et finalement la réalité des tâches quotidiennes auxquelles il est confronté. Et troisième mécanisme de cette socialisation professionnelle, c'est une phase de résolution habituelle, c'est-à-dire qu'il y a un ajustement progressif aux exigences de la profession par le sujet. Bon, cette troisième phase, nous n'avons bien sûr pas pu l'observer. Donc ça, c'est un premier style de travail qui nous a inspiré. Et puis, deuxième référence, ce sont les travaux de Dubard, bien sûr, sur la socialisation et son modèle de la double transaction avec l'interaction de l'acteur avec le contexte et ce bricolage qu'il opère entre des conduites d'assimilation et des conduites d'accommodation. C'est-à-dire, conduite d'assimilation, le sujet va rechercher dans les structures cognitive qui préexiste et conduite d'accommodation, il va opérer plutôt une transformation de ces structures cognitives. Bon. Donc ça, c'est sur la socialisation professionnelle. Et puis, nous avons regardé aussi du côté des travaux qui portent sur la professionnalisation des enseignants. Alors là, nous nous sommes inspirés de travaux tels que les travaux de Paquet, les travaux de Lang, qui définissent finalement un certain nombre de paradigmes ou de pôles qui montrent que finalement il y a une diversité de la pratique enseignante qui est quand même grande et qui conduisent les enseignants à être plus ou moins du côté académique, du côté artisanal, du côté professionnel, du côté réflexif. Bon, sans aller dans le détail hein, de ces deux chercheurs, ce qui nous a semblé intéressant, c'est que finalement, on ne pouvait pas hiérarchiser les compétences de l'enseignant en distinguant très facilement des enseignants qui seraient traditionnels et des enseignants qui seraient novateurs. Hein. Et bon, par rapport à ces travaux, nous nous sommes intéressés au fait qu'il y a un discours dominant quand même dans la culture professionnelle enseignante qui est le discours du praticien réflexif. Et notamment l'une des questions que nous sommes posées, c'est dans quelle mesure on retrouve ce positionnement de praticien réflexif dans les représentations des stagiaires. Et puis un troisième champ théorique qui nous a inspiré, c'est ce qui concerne le mode scolaire de socialisation. Alors là, avec les travaux de Guy Vincent, bon, l'idée selon laquelle une forme scolaire est apparue progressivement hein, dans le courant du XVIIe siècle, dans les sociétés occidentales, et qu'il y a eu un mode scolaire de socialisation qui s'est généralisé à finalement l'expérience quotidienne de l'individu, ne serait-ce que parce que nous avons une fréquentation maintenant beaucoup plus grande de l'école et que cela laisse des traces, bien sûr, dans notre vie. Et bon, ce mode scolaire de socialisation se caractérise par un respect des règles conventionnelles, un respect de l'emploi du temps, une pratique d'exercice répété, des pratiques également d'évaluation, également une expérience de classement. Hein, et nous avons considéré un peu ce point de vue pour voir finalement quelles étaient les représentations des stagiaires par rapport à ce mode scolaire de socialisation qui nous est apparu présent en IUFM, plus ou moins présent, bon, les stages étant apparemment un peu plus éloignés de ce mode scolaire de socialisation. Et puis, quatrième champ théorique, c'est une sociologie dispositionnelle. Alors, à la suite des travaux de Bernard Lahire, Je vous disais tout à l'heure, nous sommes allés voir du côté des stagiaires la manière dont chacun s'était réapproprié la formation qui était proposée. Et Bernard Lahir propose une analyse de l'individu comme ayant des dispositions qu'il aurait incorporées tout au long de ses expériences et utilisant plus ou moins ces dispositions en fonction du contexte dans lequel il se trouve. Et nous avons fait l'hypothèse que la socialisation antérieure des stagiaires avait bien sûr une incidence sur la manière dont ils se réappropriaient leur formation en IUFM. Alors, on s'est limité assez modestement à leur expérience scolaire, leur éventuelle expérience professionnelle et l'expérience associative qu'ils avaient pu avoir en interrogeant, par exemple, un aspect qui est celui du travail en animation. Est-ce que le travail en animation qu'avaient pu avoir certains stagiaires préalablement avait une incidence sur la manière dont ils percevaient leur travail enseignant par la suite. Bon. Également, nous nous sommes inspirés des travaux de Kaufmann, notamment le fait qu'il rappelle le poids des habitudes dans les conduites individuelles, et ces habitudes ayant un rôle prépondérant dans la réflexivité de l'individu. C'est pour ça que ça nous a permis d'interroger un petit peu cette notion de praticien réflexif en se disant que s'il y avait réflexion, elle n'émane pas d'une décision purement individuelle, mais qu'il s'agit d'un conflit entre des schèmes qui sont déjà incorporés. Donc il y a le poids des habitudes dans la réflexion qui nous semble très important. Bon. Alors, au niveau des résultats, je vais vous présenter trois résultats principaux. Alors, déjà, une question que nous avions, c'est est-ce que on est vraiment en face d'un métier en voie de professionnalisation au regard de ce que nous avons pu recueillir en termes de représentation des stagiaires, Est-ce que chez les stagiaires, on perçoit le fait qu'il s'agit d'un métier en voie de professionnalisation, en sachant que vous savez que le rapport Bancel en 1989 insistait sur cette professionnalisation de la fonction enseignante. Et donc nous sommes allés examiner cela et également s'est greffé après coup ce paradigme du praticien réflexif. Alors, le thème de la professionnalisation, il a bien sûr une forte connotation positive, puisque c'est un thème qui renvoie à des idées de qualité, de service, d'efficacité. Il renvoie à l'idée d'une maîtrise de savoir élevée, qui correspondent à des diplômes élevés, et il correspond aussi à une image sociale valorisée. Et chez nos enquêtés, nous n'avons pas tellement perçu les signes d'un métier en voie de professionnalisation, ni tellement les signes d'un paradigme lié au praticien réflexif. Alors, d'une part, les savoirs qui sont proposés en IUFM ne sont pas toujours reconnus dans leur spécificité par les stagiaires. Et ça, nous l'avons repéré en début d'année comme en fin d'année. C'est-à-dire qu'ils partagent un scepticisme ambiant à l'égard des sciences de l'éducation, des sciences humaines et sociales, en sachant bien sûr qu'il y a tout un tas de travaux qui montrent que tout cela s'explique aussi historiquement par rapport à la formation du métier d'enseignant où on a des savoirs qui n'ont pas acquis la légitimité que peuvent avoir des savoirs comme en médecine, comme en droit, où on a une articulation théorie-pratique qui paraît plus évidente et plus avec des savoirs qui paraissent plus légitimes. Bon. Et puis, les stagiaires que nous avons interrogés semblent peu adhérer au paradigme du praticien réflexif, comme si, en fait, cette tentative de rationalisation des pratiques mettait de côté certaines réalités du métier, qui sont peu verbalisables, mais qui leur paraissent très importantes. Alors, je pense aux dimensions artisanales, les tours de main, les savoir-faire, les routines, les recettes qui marchent. Tout ceci sont des termes que nous avons relevés. Mais également, cette rationalisation des pratiques, elle met de côté l'aspect affectif et intuitif, c'est-à-dire en termes d'impression d'avoir trouvé sa vocation, le plaisir d'être avec les élèves, l'intérêt pour la singularité des élèves, des stagiaires qui nous décrivent aussi des moments magiques où les élèves comprennent sans qu'on sache expliquer pourquoi ils comprennent, et puis qui vous regardent comme ça d'un œil brillant, mais on n'arrive pas à l'expliciter ni dans un mémoire, ni au moment où on analyse les pratiques. Hein. Et donc, bon, et puis également, bien évidemment, il y a eu une admiration très forte pour les praticiens de terrain. Je dis bien évidemment parce que ça a été montré dans de multiples recherches. Donc, nous nous sommes dit que c'était sans doute un besoin pragmatique d'être outillé. Hein, et là-dessus, j'étais tout à fait intéressée par l'intervention de Jean-François Marcel sur le fait qu'il va y avoir un apprentissage par imitation hein, des enseignants. Donc, il y a une très, très forte demande des stagiaires à ce niveau-là. Mais également, il y a un désir d'essayer de comprendre le plaisir, l'enthousiasme que peuvent avoir les enseignants dans leur profession. Et puis, également, lorsque nous avons interrogé les stagiaires sur les qualités qu'il faut avoir pour être enseignant, ils ont souligné finalement des dimensions très personnelles hein, de l'enseignant. Alors là, c'est pareil, en début d'année comme en fin d'année, c'est-à-dire la personnalité, le bon contact avec les enfants, l'autorité, la patience, le dynamisme. C'est un modèle finalement charismatique de l'enseignant qui est mis en avant et qui est un petit peu antinomique avec cette idée de praticien réflexif. Finalement, beaucoup sont convaincus, quand on prolonge en entretien, que la formation professionnelle pourrait se contenter de compléter ses qualités personnelles par des savoir-faire pratiques. Alors, nous avons essayé d'avancer des interprétations ces représentations hein, du métier enseignant et en se demandant pourquoi il y avait une différence avec finalement le modèle de professionnalisation et les tentatives de réflexion sur la pratique qu'il peut y avoir en IUFM. Bon, nous nous sommes dit qu'en fait, cette représentation, elle est satisfaisante pour les stagiaires parce qu'elle est moins déstabilisante que le modèle du praticien réflexif qui, finalement, peut apparaître comme une remise en cause permanente face à un métier qui comporte déjà beaucoup d'incertitudes. Et les stagiaires ne sont peut-être pas encore aguerris au niveau des routines, au niveau des habitudes qui leur permettent de considérer un peu plus sereinement le métier. Et Anne Barrère souligne bien que cette marge de manœuvre, elle peut être un intérêt pour les enseignants qui sont aguerris, mais finalement, quand on est au début de la profession, enfin quand on n'est même pas rentré dans la profession, c'est une marge de manœuvre qui peut être déstabilisante. Et puis, également, cette représentation qu'ont les stagiaires, elle va tout à fait dans le sens des souvenirs enchantés que les stagiaires retiennent souvent de leur propre passé scolaire. Hein. On a des extraits de stagiaires qui nous décrivent vraiment des enseignants qui leur ont donné envie d'enseigner à leur tour, enfin qui ont une représentation un petit peu enchantée de l'école. Alors c'est peut-être plus vrai pour le primaire que le secondaire, hein. Faudrait creuser cet aspect-là. Et finalement, d'une certaine manière, ils vont faire l'économie du passage à travers le miroir. C'est-à-dire que finalement, ils vont se retrouver plus... On a des stagiaires qui sont plus dans la prolongation de ce qu'ils ont vécu comme écoliers que véritablement dans une posture professionnelle. Alors, ça ne se vérifie pas chez tous les stagiaires, mais il y a certains stagiaires qui donnent l'impression, finalement, de n'avoir jamais quitté l'école où ils ont été éduqués. Et également, c'est une représentation... qui va être confirmé par un discours sécurisant de la part de nombreux collègues de terrain, du type des collègues de terrain qui vont dire, par exemple, bon, oui, il va y avoir beaucoup de réformes dans l'éducation nationale, beaucoup de recommandations officielles, on va se poser beaucoup de questions, mais finalement, tout ça, c'est de la théorie, et le métier, c'est autre chose de plus fondamental. Hein, ça passe par des pratiques, ça passe par des habitudes, des routines, etc. Bon. Donc, pas la peine de se poser trop de questions sur les pratiques enseignantes. Alors, une deuxième série de résultats, c'est une interrogation sur l'injonction contradictoire qu'il peut y avoir à l'IUFM entre le mode scolaire de socialisation et le retour réflexif sur ses pratiques. Alors, nos enquêtés, comme des enquêtés d'autres recherches, montrent une très forte adhésion à la formation qu'ils appellent pratique, et ils sont critiques à l'égard de la formation dite théorique. Alors, c'est un aspect sur lequel on les a longuement interrogés, bien sûr, parce qu'on ne croyait pas vraiment à cette fausse dichotomie théorie-pratique. Et quand on va observer les pratiques d'enseignement en IUFM, on se rend vite compte que la distinction, elle n'est pas aussi claire, et que vous avez beaucoup d'enseignants en salle qui vont avoir recours à des discours sur la pratique, qui vont donner des exemples, qui vont donner des anecdotes, qui vont montrer des vidéos, donc qui sont aussi en lien avec la pratique, et beaucoup de praticiens de terrain qui ne sont pas éloignés de la théorie. Hein. Donc bien sûr, c'est une dichotomie que nous avons interrogée et qui reposait en fait souvent, in fine, sur les professionnels de terrain qui leur faisait les apports, c'est-à-dire que on disait que c'était théorique quand c'était un enseignant d'IUFM, voire un universitaire. Alors là, c'était très très théorique, et on disait que c'était pratique quand c'était un enseignant de terrain, un IMF, un conseiller pédagogique, etc. Bon, alors il est vrai que la socialisation professionnelle en IUFM n'évacue pas certains aspects scolaires qui rebutent les stagiaires, qui sont soulignés par les stagiaires comme un aspect rebutant, d'autant plus qu'ils sont tous passés par l'université, quasiment sauf les mères de trois enfants et les sportifs de haut niveau. Donc ils ont connu des aspects peut-être moins scolaires à l'université que ce qu'ils avaient connu dans le secondaire. Alors, ce qui est souligné, bien sûr, c'est les obligations d'assiduité, de ponctualité qui sont mal vécues, hein. Les nombreuses heures de cours où il faut rester assis. Alors on a des discours qui font penser au discours des élèves du secondaire, hein, où il faut attendre des heures que ça sonne et en plus ça sonne pas. Enfin bon, vraiment des choses très très lourdes. Et des cours magistraux où finalement on n'a pas la parole. Et les évaluations sont décrites, on a vraiment l'impression parfois d'écouter des propos d'élèves du primaire et du secondaire. Ils sont vraiment très très inquiets par rapport aux évaluations. Un reproche qui est fait de cette tension entre ces aspects encore scolaires et les principes qui sont affichés par l'UFM de formation d'adultes, en disant qu'on veut les responsabiliser, et les stagiaires trouvant parfois que, au contraire, on va les infantiliser. Bon. Et cette tension, cette ambiguïté, ils l'aperçoivent, par exemple, dans le discours des formateurs, qui est souvent à l'UFM, on va utiliser le tutoiement, mais en même temps, c'est un tutoiement dont on se méfie, parce que ces formateurs vont également avoir le pouvoir de refuser un recrutement à un stagiaire. Bon. Mais en même temps, ce qui nous a intéressé, c'est que finalement, ces reproches qui sont faits aux aspects scolaires, on ne les a pas retrouvés chez tous les stagiaires, vraiment. Hein, chez beaucoup de stagiaires, mais pas chez tous. Et il y en a même qui nous ont donné l'impression de regretter que la formation ne soit pas assez scolaire. Dans le sens où il y a des enquêtés qui nous disent, J'ai fait ma scolarité dans le primaire, le secondaire, le supérieur, et je savais sur quoi j'allais être évaluée. J'avais des cours, j'avais des exercices, il fallait que je sois performant là-dedans. Et maintenant, je suis perdue. Je ne sais pas sur quoi je vais être évaluée. Quels sont les critères qui vont vraiment jouer? Et j'aimerais bien, quand je suis face à une classe, j'aimerais bien qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse. Et moi, je suis tout à fait prêt à appliquer ce qu'on me dit qu'il faut appliquer. Hein. Et des stagiaires qui demandaient des séquences qui soient prêtes, non seulement qui soient prêtes, mais dont on soit sûr qu'elles marchent. Des choses où finalement, on s'est dit, certains stagiaires n'ont peut-être pas quitté encore complètement cette posture scolaire. Également, la réflexion que nous sommes faites, c'est que finalement, les griefs que les stagiaires peuvent avoir à l'égard de l'UFM, finalement, ils se posent pas tellement la question des effets qu'ils peuvent avoir, eux, sur leurs élèves. Hein, ils se posent la question des effets que les enseignants formateurs UFM ont sur eux-mêmes, mais ils ne transposent pas tellement ces questions à leurs effets sur les élèves. Hein. Par exemple, sur l'évaluation, on a beaucoup, beaucoup de discours sur les craintes qu'ils ont par rapport à l'évaluation, lorsque nous leur demandons de décrire quelles sont les compétences qu'un enseignant idéal devrait avoir, eh bien, ils ne nous parlent pas du tout de l'attention que peut avoir un enseignant à l'égard des retentissements psychologiques qu'une mauvaise évaluation peut avoir sur un élève, ou du travail que peut faire un enseignant par rapport aux difficultés d'un élève. Hein. Bon. Et de même, ils n'ont pas encore. Peut-être pas encore, c'est peut-être encore trop tôt, de questionnement sur la forme des cours qui seraient trop magistraux ou des postures trop infantilisantes. Ils ne le transposent pas forcément à leur pratique. Et puis, également, ce que nous avons perçu par rapport à leur description, c'est donc une appréciation très forte, hein, des situations de stage, qui leur permet, ça, il y en a beaucoup qui le soulignent, d'échapper pendant quelques semaines à la pression de l'UFM, de côtoyer les collègues. Ça, ils insistent sur les apprentissages qu'ils peuvent faire auprès des collègues. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, ces expériences, ces acquisitions faites sur le terrain, elles peuvent venir parasiter le discours professionnel délivré par l'UFM. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le terrain, il est tout aussi socialisateur, fabricateur d'identité professionnelle que la formation à l'UFM. Et il transmet, soit de manière formelle, soit de manière informelle, des normes, des valeurs sur le bon exercice du métier. Et finalement, sur le terrain, le stagiaire n'est pas tellement évalué relativement à sa capacité à être un praticien réflexif, mais relativement à certains codes, alors explicites, bon, par exemple le respect de la réglementation officielle, hein, est-ce que c'est un stagiaire ponctuel, est-ce qu'il respecte les règles de sécurité, est-ce qu'il contrôle véritablement les absents, les présents, etc. Mais également, on s'est rendu compte qu'il y avait des codes implicites qui jouaient, par exemple, les stagiaires qui font trop de zèle. Par exemple, en voulant respecter à tout prix les horaires de récréation, sont des stagiaires qui risquent d'être mal appréciés sur le terrain parce que il y a un aspect peu convivial, finalement, de distinction personnelle par rapport à une équipe d'enseignants de maternelle, de primaire, enfin, élémentaire, primaire. Et si on revient donc à cette idée du paradigme du praticien réflexif, également une autre interprétation de la résistance que peuvent avoir les stagiaires à ce paradigme, c'est finalement par rapport à la nécessité de se protéger. C'est-à-dire que à l'UFM de Mâcon, hein, tel que les moments de réflexion sur les pratiques étaient mis en place, c'était souvent des moments collectifs avec d'autres stagiaires ou en tout cas des moments de rencontre avec des formateurs IUFM. Et bien souvent, ces moments de confrontation, les stagiaires avaient peur qu'ils rejaillissent en termes d'évaluation, en fait, sur leur pratique. Et du coup, ils étaient assez méfiants, d'autant plus que ils se rendaient compte qu'il y avait des normes sociales implicites qui jouaient. Et que finalement, il y avait des normes qui jouaient au-delà du fait d'analyser sa pratique. Alors, par exemple, ils nous ont souvent relaté des choses que n'importe quel formateur connaît en IUFM, hein, de dire que finalement, ils étaient évalués aussi sur leur manière d'être, sur leur manière d'être habillés, sur leur manière de parler. Et que finalement c'est des choses qui étaient peu dissibles, sur lesquelles ils pouvaient peu s'exprimer de manière réflexive, mais qui jouaient quand même dans la perception que pouvaient avoir les formateurs d'eux. Hein. Et là-dessus, Kaufmann a une interprétation que je trouve intéressante, qui est de dire que finalement la liberté individuelle qui est affirmée dans nos sociétés démocratiques se fait toujours corrélativement à l'existence de cadres normalisateurs implicites très forts. Hein, vous connaissez sans doute les travaux de Kaufmann sur la sociologie des seins nus à la plage, alors, qui avait défrayé la chronique à l'époque parce que ça avait l'air un peu olé olé, mais il y avait des choses intéressantes de l'ordre de, bon, on permet aux femmes une certaine attitude, mais n'empêche que on a quand même un regard très, très normalisateur sur ces femmes, et par exemple les femmes âgées, il n'est pas très bien vu qu'elles se mettent les seins nus. Enfin, bon, il y a tout un tas de codes, de normes qui existent encore. Et puis, donc, finalement, les stagiaires, d'une certaine manière, nous sont apparus comme ayant appris à se protéger par rapport à un risque de contrôle que représentait la réflexion publique de ces pratiques. Hein. Et des stagiaires nous ont dit explicitement que finalement, ils avaient appris à ne pas se dévoiler complètement, ou à faire comme s'ils se dévoilaient, mais sans se dévoiler. Par exemple, en essayant de trouver des difficultés mineures, parce qu'en même temps, ils nous ont dit, bon, dans l'analyse des pratiques, celui qui ne trouve pas de difficultés à mettre en avant, finalement, ça montre qu'il n'est pas réflexif. Hein. Donc, on va essayer de trouver quelques difficultés, mais qui ne sont pas forcément des difficultés intimes et profondes. Et puis d'autres stagiaires qui avaient un discours, alors là, très basé sur la réflexion, en disant oui, il faut réfléchir, c'est important de réfléchir, de revenir sur ses pratiques, etc., mais sans véritablement adopter la posture du praticien réflexif. Alors, le troisième grand volet de résultats concerne les vécus personnels du passage à l'UFM. Ça nous est apparu important de le souligner parce que quand on écoute les médias, on a l'impression qu'il y a un consensus sur les éléments qu'il faudrait conserver, les éléments qu'il faudrait éliminer dans la formation des enseignants. Bon, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que ce qui est critiqué comme théorique chez les stagiaires, eh bien, relève de ce qui est pratique chez d'autres stagiaires. Donc, bon. Finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de consensus chez les stagiaires IUFM. Et on a fait l'hypothèse que je vous énonçais tout à l'heure, selon laquelle les stagiaires arrivent en étant travaillés par des procès de socialisation antérieurs et puis parallèles à l'IUFM. Et au départ, on était parti un peu avec l'idée de se dire qu'il serait intéressant de voir quels étaient les parcours les plus favorables à l'entrée dans le métier d'enseignant. Et puis, ça a été impossible à trouver. Pour vous donner quelques exemples, il y a des stagiaires qui ont donc fréquenté le milieu de l'animation qui se révèlent être à l'aise à l'IUFM et dans ce qu'on leur demande en tant que professionnels de l'enseignement, parce qu'ils sont, ils sont arrivés à transposer un certain nombre de compétences qui relèvent de l'enseignement, comme par exemple s'occuper d'un groupe, travailler en équipe, avoir l'expérience des contacts avec les parents. Mais par contre, d'autres stagiaires n'ont pas réussi à repérer les compétences qui pouvaient être communes entre le monde de l'animation et celui de l'enseignement. Et ce sont des stagiaires à qui on reproche souvent d'avoir une posture plus amicale que véritablement rigoureuse, tournée vers les apprentissages par rapport aux élèves. De la même manière, certains stagiaires ont été animateurs sportifs et pour certains, c'était un désavantage parce qu'ils ne retenaient que l'aspect compétitif de leur expérience et non pas l'aspect de progression de tous hein, qui est propre à l'enseignement. Bon. De la même manière, les enfants d'enseignants, eh bien, les enfants d'enseignants, finalement, pour certains, c'était une aide, bon, ne serait-ce que pour avoir des ressources, des conseils sur les pratiques, des expériences, etc. Mais en même temps, beaucoup de stagiaires nous ont révélé que cela pouvait être un risque au niveau de son image de soi et que finalement, ils ne parlaient que très peu de leur expérience d'enseignement à leur entourage proche, hein, parce qu'ils avaient besoin de se préserver finalement dans une sphère familiale. Et puis, inversement, on a trouvé des expériences qui, a priori, n'avaient rien à voir avec la profession enseignante et qui se sont révélées être comme si c'était des expériences d'entraînement à la profession enseignante. Alors, juste pour vous donner un exemple, une stagiaire qui nous a expliqué avoir joué fréquemment à la maîtresse dans son enfance, alors qu'elle n'était pas du tout d'un milieu enseignant, et qui nous a semblé avoir développé une espèce de capacité d'observation de ses enseignants. Et il y avait un parallèle entre la manière dont elle décrivait son jeu de l'enfance et certaines compétences relatives à ses représentations de l'enseignant. Bon. Alors, autre aspect aussi, c'est que ces dispositions chez les stagiaires, eh bien, nous avons observé qu'il y en a une partie aussi qui sont émergentes du fait du passage à l'UFM. Par exemple, des stagiaires qui sont spécialisés dans une matière qui vont développer des compétences didactiques hein, par rapport à cette matière, parce qu'ils maîtrisent très bien cette matière, mais non pas la transmission à des enfants de primaire. Et bon, de ce fait, nous avons pu observer un certain nombre de dispositions relatives au métier d'enseignant qui émergeaient de par le passage à l'UFM. Et l'une des conclusions de ce travail, c'est de dire que finalement, les stagiaires ont une conception qui est assez diversifiée du métier d'enseignant, à l'image un peu des différents paradigmes hein, qui sont décrits concernant la profession enseignante. Et finalement, bon, nous nous sommes dit que c'était sans doute illusoire de vouloir uniformiser ces représentations-là et que l'une des questions qu'on se posait, c'est finalement, est-ce que ces différents styles de stagiaires ne sont pas importants à conserver pour garder une chance à des types d'élèves différents hein, finalement, est-ce que au lieu de vouloir uniformiser une formation, est-ce qu'il n'est pas intéressant de garder des profils d'enseignement différents voilà.